synthé, Indifférence. Un répondeur, un homme, et c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, alors voilà, on aurait un petit renseignement généreux. Mon amoureux et moi, on a dressé une petite liste de super-héros sans costume, parmi lesquels on trouve bien sûr le beau Frédéric Lordon, Noam Chomsky, Franck Lepage, Naomi Klein, André Gorz, Denis Rebert, François Ruffin, Julien Superbrigo et bien sûr toi, notre super-héros quotidien qui nous les a fait connaître. Mais il y en a un qu'on n'a jamais entendu chez toi. Il s'appelle Vincent de Goljac, il est sociologue au laboratoire de changement social. Il travaille sur le travail dans l'entreprise contemporaine. On t'en dit pas plus, voilà. On espère que tu auras le temps de te renseigner sur lui et peut-être de l'inviter. C'était Tom Tom et Nana de Paris.
Donc on nous parle de la sécurité dans le nucléaire, moi ça me fait bien rire, je suis chauffeur routier, donc j'ai été amené pas mal de fois à livrer des centrales nucléaires pour changer les turbines qui changent régulièrement. Et donc en arrivant à Civaux ou à Cholet, je sais plus, voilà, on me fait passer deux fois au détecteur de radiation à l'entrée, on fait passer le camion deux fois au détecteur de radiation, alors... plein de tests dans tous les sens, on se dit que la sécurité c'est bien fait, et puis par curiosité quand même je pose la question, je demande au gars, mais pourquoi on passe deux fois? Il fait bah normalement on le fait une fois à l'entrée, une fois à la sortie, mais pour pas se faire chier, on va le faire deux fois à l'entrée quoi. Voilà, donc s'il y a une différence de potentiel entre l'entrée et la sortie, personne ne le saura jamais. Et voilà quoi, donc la sécurité c'est quand c'est fait par les machines, ça peut tomber en panne, quand c'est fait par les humains, l'erreur est humaine, et donc voilà, merci, au revoir. Puisqu'on parle de nucléaire, faisons un tour de table des différents partis sur la question du nucléaire. Alors Front National pour suivre l'effort du nucléaire, UMP pour le nucléaire, le MoDem a bien diminué la part globale du nucléaire dans la production d'énergie nationale, mais sans en énoncer les étapes. Parti socialiste, et bien par le biais du traité fait avec Europe Écologie Les Verts, il propose de descendre l'énergie nucléaire à 75% en 2025, alors que les Verts voulaient du 50%. Cécile Duflot pourtant assure que son parti n'a pas cédé, je rigole. Europe Écologie Les Verts veulent une extinction progressive des centrales en réduisant par exemple la consommation d'électricité finale de 15% en 2020. Le Front de Gauche propose quant à lui un référendum mais sans annoncer les étapes de la sortie du nucléaire si le référendum venait à être accepté. Quant au NPA, lui, propose une sortie du nucléaire dans 10 ans. Je tiens à signaler que j'ai fait une recherche simple et seul le site du NPA m'a permis d'avoir des réponses quant à leurs propositions. Quant aux Verts, il faut chercher un peu plus sur leur site et c'est d'ailleurs les deux seuls partis qui donnent les étapes pour arriver à leurs objectifs. Qui a signalé qu'il y a Renault qui va sortir des voitures électriques en 2012 avec un effet rebond, parce que si le parc automobile français pétrolier se transforme en électrique, il faudra quelques centrales nucléaires car les énergies alternatives n'y suffiront pas, sauf si nous refusons ce type de moyens de locomotion et que d'autres moyens électriques plus légers, moins rapides et plus aérodynamiques qui existent déjà, soit accordé par l'État. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment le nucléaire, je tiens à rappeler qu'il y a un arrêté ministériel qui autorise l'utilisation de rebuts faiblement radioactifs dans la fabrication d'objets usuels de grande consommation et qui seront utilisés pour la construction de maisons, voitures, bateaux, vélos, etc. Bon allez, salut, c'était Eric du Morbihan. Tchuss!
Bonjour Daniel Mermet, c'est Catherine Huberti, je suis libraire au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand et aux premières loges pour voir l'enterrement de Madame Michelin, femme d'industriel. Elle a droit à un enterrement dans la cathédrale. Nous, du coup, on a droit à la messe dans la rue, puisqu'il y a des haut-parleurs partout. On a toute une place qui, normalement, est fermée, qui est réservée au stationnement de gens bien, qui viennent sur invitation. Je pense qu'ils ne doivent pas payer leur parking, contrairement à nous tous qui allons nous garer dans un parking comme tous les communs des mortels, mais évidemment nous n'avons pas affaire aux communs des mortels. Cela dit, il y a foule, Clermont a encore besoin de s'émanciper. La femme du seigneur de la ville est morte. Bon, c'est un drame, c'est sûr. Elle avait 5 enfants, elle avait 44 ans, c'est sûr, ça ne remet pas en question. Mais quand même, pourquoi tout ce bordel alors que les musulmans n'ont pas le droit de prier dans la rue? Pourquoi les Michelins, eux, ont droit de nous imposer leur messe? Merci et puis continuez bien.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Étienne en direct de Saint-Gérand près Pontivy dans le Morbihan. On a engagé une action faucheurs volontaires ce matin, on est près d'une centaine. On est en train de bloquer un site de fabrication d'aliments pour bétail qui intègre du soja OGM qui vient d'Amérique latine. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que on dénonce cette situation qui est complètement inacceptable, parce qu'à l'autre bout de la planète, en Amérique du Sud, on crève la dalle, on fait crever les paysans pour que du soja transgénique de Monsanto puisse être produit. Et ce soja transgénique, il débarque par les ports bretons de France, par millions de tonnes, par Brest, Saint-Nazaire, Serres, Sète, Lorient. Et il intègre ce processus de fabrication d'aliments pour bétail dans cette usine que l'on bloque aujourd'hui. Et ça, c'est inacceptable parce que derrière, en fait, personne ne sait que ces millions de tonnes de soja transgénique, ils se terminent dans notre assiette. Donc on bloque le site, on lâche rien, on est décidé à rester autant que faire se peut. Bien sûr, on espère un signal du ministère. Et on espère aussi que d'autres oreilles vont se tendre, notamment de la part d'un des plus gros syndicats agricoles français, le plus gros, qui a une responsabilité évidente là-dedans, puisque on est dans une usine qui s'appelle Glon-Sander, qui fait partie d'un consortium plus gros qui s'appelle Sanofi Profitol, dont Xavier Belin, le président de la FNSEA, est le président. Et en fait, c'est une caution supplémentaire pour ces OGM qui débarquent dans notre alimentation et en Europe, par millions de tonnes. Donc, on est là, on espère tenir le feu jusqu'à demain. Vous êtes tous bienvenus pour nous rejoindre. Il y a des marrons grillés, il y a de la musique, comme vous pouvez entendre derrière. Il y a du vin rouge, de la bière, enfin bref. On n'oublie pas de vivre. Puis c'est à Saint-Gérand, je le répète, près de Pontivy dans le Morbihan. Salut!
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Messages qui m'arrivent ici à Athènes. Vous entendez peut-être derrière moi des discours, un haut-parleur qui vient de Polytechnique. Polytechnique, c'est l'université au centre d'Athènes, immense université qui est un lieu mythique pour la mémoire, pour l'histoire, pour la jeunesse, et aujourd'hui tout spécialement puisque le 17 novembre, chaque année, on célèbre l'anniversaire du 17 novembre 1973 qui a été le jour de l'insurrection qui allait mettre fin à la dictature des colonels. Et à l'entrée de l'université que j'aperçois d'ici, les grilles ont été abattues cette nuit-là par des blindés de l'armée. C'était le début de l'insurrection et c'était le commencement de la fin de la dictature. Chaque année, donc, il y a une commémoration, des cortèges, des manifestations, mais cette année, ça prend un tour tout à fait particulier parce que ici, on fait le lien entre la dictature des colonels et la dictature des marchés. De la dictature des colonels à la dictature des marchés. Et ça, c'est pas seulement quelques altermondialistes, quelques gauchistes attardés, c'est toute la population qui fait ce lien et qui va manifester cet après-midi dans les rues d'Athènes et probablement, sans doute, dans d'autres villes de Grèce, sur les hauts murs de Polytechnique, de l'université, on peut lire trois mots, pain, éducation, liberté. Pain, éducation, liberté. Ça fait partie de ces grands mots, des révolutions, des grandes insurrections de l'histoire. C'est des mots qui ont été répétés, scandés en 1973 et qui sont répétés, scandés aujourd'hui. Pain, éducation, liberté. C'est pas des métaphores, c'est pas des illustrations du passé, c'est la vérité. La pauvreté ici gagne toutes les couches de la société et il y a vraiment des cas de sous-alimentation, pas seulement quelques cas, de nombreux cas de sous-alimentation. L'éducation est à volo et les libertés, on va le voir aujourd'hui, puisque c'est le baptême du feu pour ce nouveau gouvernement, on ne sait pas du tout ce que va donner cette journée, ce que va donner cette soirée, ce que va donner cette nuit. En tout cas, il y a un commerce qui marche bien ici à Athènes, il y a quand même quelque chose de positif, c'est le commerce des masques à gaz, des lunettes de piscine ou de ski et de produits pour lutter contre les effets des gaz lacrymogènes. Tout le monde va manifester et la plupart des gens viennent avec ça dans les manifs et aussi avec des casques, y compris des casques, de simples casques de vélo pour essayer de se protéger contre cette violence. Voilà ce que nous vivons actuellement à Athènes. Il y a 3 ans, nous étions là, en décembre 2008, suite à l'assassinat par les forces de l'ordre du jeune Alexis Grigoropoulos. Toute la ville était saisie d'émotions, manifestations, là aussi répression, occupation de Polytechnique, de l'université. On vous avait raconté ces journées sur fond de crise, sur fond déjà de dettes, sur fond de faillite du système néolibéral. Ce système ne marche pas, nous disaient les jeunes à l'époque et les moins jeunes. Aujourd'hui, la preuve est là. La crise n'est pas un mot vague, quelque chose comme ça qui est une métaphore. Et ici, c'est vraiment une réalité. Elle est tangible dans la ville, dans les rues, sur les visages, dans les conversations, dans la vie de chacun. Et on va voir ce que va donner cette journée de manifestation. Et ce que je vous propose, c'est de revenir à ces journées de décembre 2008, telles qu'on les avait racontées dans la Bastille-Jussuy, telles qu'on les avait vécues dans la Bastille-Jussuy. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, Nantais, Nantaises. Notre prochain repère aura lieu vendredi 18 novembre. On y abordera la question du vote, pourquoi voter ou pourquoi ne pas voter, que faire en plus ou à la place. C'est le vendredi 18 novembre à 19h19 au Méliès, rue des Carmélites. À vendredi.
Aux AMG de l'Ardèche du Sud, vous êtes invité au prochain café repère de Là-bas si j'y suis, qui se tiendra ce jeudi. Nous y accueillerons André Duny, président de la coordination de la nouvelle éducation populaire, avec qui nous allons parler de quelle autonomie énergétique des territoires sous contrôle des habitants. Pour participer ensemble à la transition vers un monde meilleur, rendez-vous à Saint-Montant, au Petit Bistrot, ce jeudi, à 20h30. Merci.
Christopher! Christopher, gamin!
Là, on arrive, hein. Est-ce que c'est l'ambiance normale des rues? Parce que...
Non, c'est que... beaucoup plus animé.
Oui, oui.
Il y a des voitures garées de ce côté,
Ouais, ouais.
Et maintenant,
la
voiture dans le garage.
Voilà, la voiture. C'est ça, les gens ont planqué la voiture. Et les voitures qui restent là, c'est des carcasses sont carbonisées.
Des carcasses de 5 voitures. Ici, juste à côté du Polytechnique et dans la première rue à côté, la George, qui n'ont pas encore dégagé.
Et là on est au coin de l'école Polytechnique, alors c'est là, ça. C'est la grosse affaire. C'est le centre des activités, quoi.
Absolument.
Ok. Donc, où tu nous emmènes, là? Où tu nous emmènes?
Alors, on fait le tour du côté est du Polytechnique.
Dis-moi Thomas, traduis-moi les slogans qui sont sur les murs.
On en a pour une heure au moins.
Oui, mais en gros.
aucun sacrifice pour la plutocratie. La pluto, c'est la richesse. Donc on parle de la plutocratie comme d'une monarchie. La Grèce est... comme dit Petros Markaris, c'est une démocratie qui se gouverne comme une monarchie. C'est trois familles, clans, qui depuis 60 ans, pratiquement depuis 46, en Grèce, 20% du parlement actuel ont une quelconque relation familiale entre eux. Ce n'est pas quelque chose qui inspire...
Il y a un monsieur fatigué qui arrive et qui nous jette sa bouteille de bière parce qu'il dit pas de caméra, mais...
Arrête.
Soleil toute l'année, un patrimoine hors normes, une nature généreuse, la fête au quotidien, une histoire bien gardée, un peuple chaleureux, tantôt bourru, tantôt affectueux. C'est dans tous les cas un peuple attachant qui vous étonnera par ses élans parfois déconcertants de générosité et son hospitalité. Voilà l'idée qu'on se fait de la Grèce dans le petit futé, le guide le petit futé. C'est pas l'accueil qu'on a eu en arrivant à Athènes samedi dernier, quelques minutes après après avoir commencé notre reportage, l'ami Olivier s'est fait massacrer sa caméra et il s'en est fallu de peu que Give se fasse arracher son micro. Par qui donc ? Par qui donc ? Par les coucoulophories. Les coucoulophories, c'est-à-dire les cagoulés, qui sont les cagoulés? Ben les cagoulés, c'est les manifestants, c'est toute cette jeunesse qui, à Athènes, tient le pavé, tient la dragée haute au pouvoir depuis samedi dernier. Alors, violent. Première chose à dire et à redire, c'est la violence de ces manifestants et de toute la ville, l'hostilité aux médias. Il nous a été impossible de rentrer dans cette fameuse école polytechnique qui est un sanctuaire où la police n'entre pas, les forces spéciales n'entrent pas, et les journalistes non plus. C'est-à-dire que pour les manifestants, les émeutiers, on va dire grecs, eh bien, il y a une assimilation totale des médias et de la police. C'est important à dire, ça fait pas plaisir du tout, aux journalistes et aux reporters que nous sommes, mais c'est ainsi, il faut le constater, et c'est une chose très forte. C'est une chose très forte parce que les émeutiers d'Athènes ne veulent pas de médias, ils n'ont pas de porte-parole, ils n'ont pas, comme c'est le cas chez nous, de représentants, de figures qui émergent et qu'on voit apparaître sur toutes les télévisions, les porte-paroles, etc. Rien de tout ça à Athènes. Et eux-mêmes produisent assez peu d'éléments médiatiques, c'est-à-dire de journaux, de tracts. Alors, sur Internet, oui, des blogs, beaucoup d'usages du SMS, mais c'est un premier trait caractéristique de cette révolte. Beaucoup de caméras cassées, des appareils photo cassés, des reporters russes, un reporter russe qui s'est carrément fait casser la gueule. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, qui nous a étonné en arrivant, c'est le soutien de l'opinion à ces contestataires et à ces manifestants. Malgré les destructions que vous avez vues partout, malgré les pillages que vous avez vus aussi, eh bien la population, dans son ensemble, dans sa majorité, et les sondages l'ont indiqué aussi, soutient ces manifestants, ces jeunes qui manifestent, qui ne sont pas seulement des anarchistes, qui ne sont pas seulement des étudiants ou des lycéens, mais qui sont des jeunes, et on va le voir, aussi des moins jeunes. C'est notre sujet du jour. Batsi Gurunia de l'Euphonie. C'est là-bas si j'y suis jusqu'à 16h sur Inter.
Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα, να τιμάς με με παρελάσεις στο μπροστά μου σαν άραγα να κρατάς το κεφάλι για ψηλά στα μαγόνινα και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα να μου ζήσεις Ελλάδα κι όλοι οι βουλευτές σου με τα φέρετα του σώμη στις ακρογιαλιές σου με τους χριστιανούς σου που κάνουν αιστεία κι ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. Καλημέρα Ελλάδα. Λίβω στο μικρόφωνο, στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα απ' απ' την καλή, στα λέω κι απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άκρητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα, δεν ψάχνω για ματιά. Δεν περιμένω θαύματα, παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα, ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας, κύριε Υπουργέ, τα Υπουργεία σας.
Σωστό.
Μιλάς ελληνικά?
Ναι.
Είσαι Έλληνας ή Αγγλίζος, είσαι?
Γερμανός.
Γερμανός. Γιατί δεν ρώτησες?
Συγγνώμη.
Γιατί δεν ρώτησες?
Μα δεν μας άφηναν. Δεν μας άφηναν. Δεν είχαμε μπει ακόμα. Δεν είχαμε κοντέψει.
Πολλοί ρουφιάνοι από τους μπάτσους μπαίνουν μέσα και παίρνουν φωτογραφίες.
Ανοιχτά ήμασταν. Τι κρατήσαμε
γιατί
στο χέρι.
Γιατί δεν ρώτησες? Ρωταλείς,
αν ήμασταν μπάτσι, θα ήμασταν τόσο ηλίθιοι. Πες μου.
Δεν ξέρω.
Εγώ μπήκα με το μικρόφωνο μου μέσα και μου είπανε δεν θέλουμε να μιλήσουμε και έφυγα.
Η μαλακία δεν έχει γένος.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δεν έχει ηλικία και πάνω απ' όλα ο μαλάκας δεν γίνεται. Γεννιέται. Θα πρέπει να ρωτήσεις. Don't worry, be happy. Βέβαια.
Il vient de me dire la stupidité n'a pas de nation et n'a pas de frontières. Fallait demander. Je dis mais on n'a pas eu le temps de demander. Ils nous sont tombés à bras raccourcis. Donc en quelque sorte, il a commencé par demander, c'est vous les gars qui vous faites casser la caméra? Je dis ouais. Ouais, fallait demander parce qu'il y a eu beaucoup de flics qui ont pris des photos de nous.
Ah bon?
Du genre dans le but d'identification.
Non, pas du tout.
Ah! Ah! J'ai dit, franchement, si on avait été des flics, on aurait fait aussi con que ça. Nous, on est venus parce qu'on avait confiance en vous. Je suis rentré avec un micro et personne ne m'a fait de mal. C'est pourquoi je pensais pas que ça allait se produire. Je suis vraiment désolé. Alors là, il dit. Il y a des tags, des graffitis qui disent « L'État vous assassine ». Et un peu plus loin, « Aftes imeres ineto Alexi, ces jours-ci sont à Alexi ». Donc Alexi Grigoropoulos, le jeune assassiné, ou le jeune tué.
Ah mais ça on comprend, police bastarde.
De l'autre côté aussi, il y a plein d'écriteaux. Nous sommes sur une image du futur. Nous demandons rien, nous voulons tout.
Il y a une manif qui va avoir lieu maintenant, Thomas.
Il y a une manif à 6h qui démarre, une manif estudiantine dans le centre. Et c'est une manif dont on attend que probablement tôt ou tard, ils vont réussir à se mettre sur la gueule avec les policiers.
Alors ça dure depuis combien de temps ça? Ça dure depuis une semaine quand même.
Ça dure exactement une semaine.
Et là on passe devant l'université occupée, une espèce de terrain vague.
avec des palettes de bois qui brûlent, peu d'éclairage, tous les murs absolument tagués, des banderoles, des affiches, et le quartier d'ailleurs, c'est assez bizarre parce que la nuit tombe, mais c'est le quartier un peu dans une semi-obscurité. Il y a le son qui passe et beaucoup de jeunes dans le quartier. Des slogans partout, partout, sur tous les murs. Quelques commerces encore ouverts en face.
Alors là, la violence, les sons de violence, les propos fiévreux des correspondants, tout ça, c'est l'événement. C'est l'événement, on essaye de décrire et de faire vivre l'événement, mais c'est on est sidéré par l'événement, bien évidemment, mais il faut se dépêcher de comprendre les causes de l'événement et remettre le plus vite possible, tant soit peu, l'événement dans sa, dans son contexte et dans son histoire. L'agitation n'a pas commencé en Grèce ni à Athènes le 6 décembre dernier. Ça fait des mois, sinon des années, que il y a des tensions, des grèves, des manifestations des jeunes. J'hésite à dire étudiants parce qu'on va le voir dans les manifestants, on va rencontrer aussi bien effectivement des étudiants, des lycéens, mais aussi toute une jeunesse. La Grèce a le maillot jaune du chômage chez les jeunes. C'est 25 ou 26% des moins de 24 ans sont sans emploi. Et c'est une révolte sociale de la jeunesse qui se passe en Grèce, suivie par une partie importante, majoritaire de la population, en dépit, je le répète, en dépit des violences et des destructions diverses et variées. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, ben, c'est tout le monde, et on a des enfants, et cette jeunesse n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir, il y a vraiment, alors là, c'est nos futurs, c'est un système d'éducation nationale qui est complètement injuste et monstrueux. Et voilà, c'est l'une des raisons qui a poussé les adolescents à descendre dans la rue, et ce sont des raisons fortes et profondes. Le jeune garçon de 15 ans qui a pris une balle en plein cœur, Alexis Grigoropoulos, 15 ans, est de la classe moyenne, c'est-à-dire aisé. Donc, c'est pas un gosse de pauvre qui a été buté. Et c'est cette classe moyenne, précisément, qui n'a plus d'avenir, ou du moins qui avait quelque chose, qui croyait avoir quelque chose et qui est en train de le perdre. En Grèce, et ça, c'est pas exclusif, bien évidemment, à la Grèce, c'est un sentiment général, et pas seulement un sentiment, une réalité, dans beaucoup de pays, notamment européens. D'où l'inquiétude justifiée des pouvoirs publics en France devant un risque de contamination. Et on a vu, dans les séjours derniers, des manifestations à travers l'Italie, dans un certain nombre de villes italiennes, dont Bologne, l'historique Bologne, et Gênes, Carlo Giuliani. Et on se trouve exactement dans ces ruelles du quartier latin d'Athènes, le quartier Exarchia, on se trouve exactement devant la même chapelle ardente, devant le même lieu de recueillement, devant les mêmes fleurs, devant les mêmes attitudes que ce qu'on avait pu voir et partager devant l'endroit de Gênes où Carlo Giuliani a été abattu lui aussi. Alors on est devant cet endroit, et là c'est pas des jeunes qui manifestent, c'est pas des jeunes qui sont présents, c'est des gens du quartier, et des gens du quartier de tous âges, qui se sont regroupés en associations de voisinage, de quartier, pour dénoncer la pression policière. Les Grecs ont une histoire de rupture avec leur police qui est due à l'histoire même de la Grèce qu'on évoquera au cours de ces reportages. Faut pas oublier les années de dictature, et cette police est connue pour sa coutume répressive.
Ça y est, les premiers gaz lacrymogènes sont partis, là. Les jeunes refluent en pleurant. C'est la fin du sitting devant l'hôtel de police. J'étais bon enfant jusqu'à maintenant. Et comme d'habitude, les manifestants, qui sont essentiellement des lycéens, viennent d'être dispersés. Un coup de gaz lacrymogène. Alors les professeurs qui sont là et les journalistes, je vous le cache pas, repartent chacun dans leur coin en toussant et avec les yeux qui coulent. Ça fait 10 jours que ça se répète. Ah putain.
Daniel Mermet et Guy Vanctil à Athènes en décembre 2008.
On est quand même un peu étonné de ne pas trouver de leader et de porte-parole. Comment fonctionne ce mouvement ?
Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που το ζω επίσης. Από τη μεταπολίτευση που ξέρω, δηλαδή από τη Χούντα.
Depuis la junte, la première fois dans ma vie, moi aussi que je rencontre ce phénomène.
Qu'est-ce qui explique le phénomène ?
Δεν έχουμε μια άγρια εξέγερση φτωχών προαστίων.
L'élément nouveau, c'est que nous n'avons pas là une manifestation de pauvres zones urbaines, extra-urbaines. Ou par exemple, comme on avait il y a 2 ans, d'étudiants. Il y en a de tout.
Il y a de tout dans ces manifestants.
Il y a aussi la jeunesse qui n'appartient à aucune classe spécifique. De même pour les étudiants.
Και με πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς, σχεδόν όλες με εξαίρεση ίσως το Κουκουέ ή
Μιντεμέ. Également tous les partis de gauche y sont impliqués, à l'exception des communistes.
Και κυρίως με χιλιάδες ανθρώπους, γονείς ή φιλικά προσκύμενος, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή τους,
essentiellement aussi des parents, des professeurs, ce sont des gens donc qui, pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont dans la rue.
Και ταυτόχρονα μια κυβέρνηση η οποία εδώ και μια εβδομάδα δεν κυβερνάει.
Évidemment, on a en même temps un gouvernement qui depuis une semaine maintenant ne gouverne plus.
Η οποία περιμένει χωρίς σχέδιο.
Qui attend tout simplement, bêtement, que ça se tasse.
Και από την Παρασκευή έχουμε ένα καινούργιο φαινόμενο, εκατοντάδες εκδηλώσεις, όχι βίαιες, εκδηλώσεις συζητήσεων ενημέρωσης στις συνοικίες και στην επαρχία. Ομάδες πολιτών.
Et à partir de vendredi, on assistera à un autre phénomène qui est encore inusité, c'est des rassemblements de citoyens, aussi à la campagne, par exemple.
Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression... Nous, évidemment, les médias viennent tout de suite en ville, mais ce qui se passe, qu'on est en train de comprendre, c'est toute la Grèce qui est agitée. Ούτε ξέρουμε πόσες πόλεις, δεν ξέρουμε πόσες πόλεις αυτή τη στιγμή είναι...
Έχουμε
χωριά των χιλίων ανθρώπων που
ξεχνάζουν.
Έχουμε φιλάθλους στα γήπεδα.
C'est même des amateurs de sport dans les stades.
Έχουμε ασύλληπτες δυνάμεις. Και νομίζω ότι το αίτημα σιγά σιγά αποκρισταλώνεται.
Les revendications, on dirait qu'elles se cristallisent présentement, qu'elles commencent à se définir.
Αστυνομία και αυταρχισμός.
Que cesse la brutalité
de της αστυνομίας.
Un désarmement de la police.
De la police. Éducation et les
financement approprié pour la formation.
Και 3 mètres για την ανεργία των νέων.
De l'argent également pour abolir le chômage des jeunes.
Αυτά τα 3. Αυτό νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 5η με κεντρικό σύνθημα να πέσει η κυβέρνηση.
Alors, ces revendications vont aller jusqu'à jeudi avec le but de faire tomber le gouvernement.
Όταν ο ήλιος κουραστεί, πάει αναπλαγιάζει. Τα παλικάρια βγαίνουνε έξω από τους κρυψώνες. Τα παλικάρια βγαίνουνε έξω από τους κρυψώνες. Το μέτωπο τους Έλληνες θα λήξει ξανά στη μάχη. Χέρια τους μπογιές να γράψουν την ελπίδα. Στα μάτια τους η ελευθερία, αστραφική πατρίδα. Στα μάτια τους η ελευθερία, αστραφική πατρίδα. Το μέτωπο Ελλήνες καλήξανα στη μάχη. Ελευθερία ή θάνατος, το λαύρο μας γράφει. Ελευθερία ή θάνατος, το λαύρο μας γράφει.
Συνέλευση της κατάληψης κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Κατάληψη Παλαιού Δημαρχείου ΚΕΠ. Ιούλιο 2008.
Qu'est-ce qui se passe dans ce monde, Pia?
C'est la deuxième occupation des radios pour faire écouter notre parole. Exprimer la solidarité à ceux qui sont dans la lutte et à ceux qui sont arrêtés. Et il a annoncé les mobilisation à venir. Ouais, maintenant c'est une pause musicale.
C'est la radio.
Le maire d'Athènes est venu parce qu'on avait occupé les bâtiments des radios et de la mairie d'Athènes en tant que réseau. Et donc le maire d'Athènes est venu se disputer avec nous. Et on a continué notre émission dans sa radio. Et maintenant, c'est une autre occupation. C'est un phénomène d'échelle parce que ils ont commencé à faire des occupations à des radios, des différents radios, des chaînes de radio. Et ça, c'est une pause musicale. C'était bien.
Ανακοίνωση κατάληψης Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Τις τελευταίες μέρες με αφορμή...
Ça c'est l'annonce de la mairie d'une quartier d'Athènes parce qu'ils ont fait une occupation de la municipalité d'un quartier d'Athènes. Et elle parle des pratiques brutales qui sont appliquées non seulement aux manifestants, mais de cette brutalité diffuse qui s'adapte depuis longtemps et est appliquée aux immigrés, aux populations qui ne sont pas vraiment légitimées, si vous voulez, et des non-participants de la vie politique de Grèce. Et elle dit que pour nous, la révolte, c'est une occasion pour faire un pas devant et pour avancer un peu. Et elle dit résistance et auto-organisation et solidarité comme mon clé et mot de coordination, si tu veux. Ça, c'est une chanson des Zapatistes.
Estás mi sitio, estás mi gente, somos obreros, la clase preferente.
Voilà, on est au local Dictio, c'est un local où se retrouvent ceux qui militent dans le réseau pour les droits civils et sociaux à Athènes, on est dans le quartier Exarchia, c'est le légendaire quartier. Disons le quartier latin, le quartier où la contestation, le quartier intello, ce qui était le quartier latin dans les années 60. Et ce quartier a été le foyer de la révolte qui a entraîné la chute de la dictature en 1974. Ça avait été assez chaud puisque 40 militants avaient été tués à l'époque dans ce quartier. Et l'histoire d'Alexis qui a été abattu samedi dernier par un policier a des précédents, puisque par exemple en 1985, un autre adolescent de 15 ans, Michaelis Caltezas, avait été tué dans ce même quartier par un policier lors d'une manifestation. Alors on est donc dans ce local. Rien ne surgit de rien. Il y a une tradition de lutte dans ce pays ancienne, et on se souvient de la guerre civile après la Première Guerre mondiale, on se souvient de la dictature, et donc tout ça, ça construit, ça a fabriqué une mémoire. histoire politique et une pratique politique et des prises de tête aussi politiques avec des toute une série de groupuscules plus ou moins chamailleurs entre les anarchistes, les communistes, les trotskistes, les sociodémocrates. Et à chaque fois, il faut mettre une bonne dizaine de courants multiplié par le terrorisme intergroupusculaire bien connu, enfin vous connaissez tout ça. Mais voilà quelqu'un qui a un peu survolé tout ça, pas seulement survolé, qui a vécu tout ça. Puisqu'on parle, on dit il y a des jeunes grecs qui sont dans la rue, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a des moins jeunes aussi. Exemple, Yanis Felekis. Yanis Felekis, il a dépassé la soixantaine et c'est un vieux routier et un témoin de cette histoire, de la contestation en Grèce et notamment à Athènes.
Qu'est-ce que tu fais au juste maintenant ?
Je te lève tes yeux aux minacimes d'action, proche.
Je suis retraité.
Bah, on a plus te lève tes prolavons la paromissie d'action. Y'a t'es tant à miette à l'yalissa.
Probablement, je suis parmi les derniers qui ont encore réussi à avoir une retraite, parce qu'après, ça va s'arrêter.
Une retraite de quoi ? Qu'est-ce que tu faisais ton boulot, comme boulot ?
Ναυτικός, τυπογράφος, οικοδόμος.
J'ai travaillé comme serveur dans un bar, comme marin, comme typographe.
Επειδή τα τελευταία 10 χρόνια, κυρίως από όταν ξεκίνησε το αντιπαγκοσμίο ποιητικό κίνημα,
j'ai donc une retraite toute petite parce que les dernières 10 années, à partir du quand on a démarré le mouvement altermondialiste, avec un salaire minimal,
700 euros.
La retraite se calcule sur 75% du dernier salaire.
J'ai 480 euros.
475 euros pour être précis de la retraite.
Là, on est dans les niveaux, on est très précis. Entre 475 et 485 euros, ça c'est très important, quoi.
Τα τελευταία 50 χρόνια η βασική μου ασχολία είναι το κίνημα.
Parce que les derniers 50 ans, ma préoccupation majeure, c'est le mouvement.
Tu as lutté toute ta vie. Tu as fait combien d'années de prison ?
Σύνολο λίγο περισσότερο από 6 χρόνια.
Oui, pour tout, quelques 6 ans.
Yanis, là, ça fait, tu dis, ça fait 50 ans que tu milites et que tu as une vie de militant engagé. Quel a été le plus beau jour là-dedans ? Quel a été le plus grand, l'événement le plus heureux ? Le plus formidable auquel tu as participé, dont tu as été témoin ?
Certainement l'occupation du Polytechnique en
73. Και σίγουρα τα σημερινά
Les événements de 73 devant le Polytechnique avaient ni la durée ni l'envergure qu'a ce mouvement aujourd'hui qui est profondément enraciné dans des impasses sociales et économiques.
«
Édition 13h. Les titres de cette édition de 13h, l'armée lancée contre la révolte des étudiants à Athènes, déjà plusieurs morts et au moins 130 blessés.
Le 17 novembre 1973.
Nous avons tenté de rejoindre à Athènes notre correspondant Jacques Dauphin. Je crois que Jacques Dauphin est en ligne. Non, je crois que dans quelques secondes, nous pourrons entrer en communication avec Jacques Dauphin. Voilà, c'est fait. Jacques Dauphin.
Athènes a vécu une nuit de fièvre, une nuit d'émeute, une nuit d'affrontements sanglants. On dénombre 5 morts, 130 blessés. Vers 3 heures du matin, la police sous la protection de chars était passée à l'action contre les occupants de l'école polytechnique d'Athènes. Elle a réussi à pénétrer dans l'établissement et à l'occuper entièrement. Les chars, sillonnant les rues de la ville, ont circulé jusqu'à l'aube. De petits rassemblements ont harcelé la police. Les chars sont à nouveau sortis de leur caserne et, tirant à blanc, ont parcouru les diverses artères de la ville. On signale un accident causé par un char. Une jeune fille aurait été tuée. D'autre part, le président Georges Papadopoulos, s'adressant à la nation, a fait un état d'un véritable complot contre la libéralisation du régime à laquelle il est attaché. Il a invité les milieux politiques responsables à réfléchir et à méditer et à ne point faire cause avec des anarchistes, suivant ses propres termes, qui n'auraient que porté atteinte à la nation et à l'ordre social. Enfin, la censure a été établie sur la presse locale. Il ne semble pas qu'elle s'applique à la presse étrangère.
Daniel Mermet et Guy Vanctil à Athènes en décembre 2008.
Et toi, t'es lycéen, toi ?
Oui.
Alors, le gouvernement de Zamava, quand on avait Emmas et sous Ramos, parlait avec Miguel Diamas.
La semaine passée, je l'ai passé dans la rue.
Κανένα στα μαθήματα, όλοι στον αγώνα.
Personne au cours, tous dans la rue, tous dans le combat.
Voilà, ça c'est les autocollants qu'on se fait coller dessus par les jeunes manifestants lycéens.
14-15 ans, il doit y avoir ces lycéens que nous rencontrons à la fin de cette manif au cours de laquelle certains jeunes ont été arrêtés et ça dure depuis le 6 décembre suite au meurtre par un policier du jeune Alexis, 15 ans. Originaire, faut le rappeler, originaire de la classe moyenne, c'est un détail qui a son importance. Donc ça tient, ça s'accroche. Évidemment, les images les plus spectaculaires, c'est ces jeunes avec des capuches tout habillés de noir et qui jettent des cocktails Molotov, etc. C'est très spectaculaire. Les télés adorent ces images très violentes, mais il y a tout un peuple derrière, toute une ville d'Athènes derrière, et des très très jeunes comme ces lycéens que nous rencontrons.
Il vous parle de 73, 74, l'occupation qu'il y avait eu à cette époque-là, de l'école polytechnique et de la chute de la dictature sous la pression des manifestants.
Εννοείται, ενημερωνόμαστε, κάνουμε ιστορία σχολείο.
Bien évidemment, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on apprend à fond à l'école.
Τις επαιτίους αυτές τις γιορτάζουμε κάθε χρονιά στην ημερομηνία.
Chaque année, on célèbre les revendications de 73.
Από την άλλη όμως είμαστε απογοητευμένοι, γιατί ακόμα και γιατί ακόμα και η γυναίκα η οποία ήταν στο Πολυτεχνείο και έλεγε στο ράδι εδώ Πολυτεχνείο βοηθήστε μας, είναι τώρα στη Βουλή.
Mais d'un autre côté nous sommes très déçus parce que la femme qui représentait, qui était la voix de la radio libre du Polytechnique, qui a dit ici c'est le radio Polytechnique, ici c'est la radio Polytechnique, aujourd'hui elle est députée au Parlement. Pasok,
c'est-à-dire députée socialiste.
L'opposition sociodémocrate.
Ici Radio Polytechnique. Ici Radio Polytechnique. Vous écoutez la radio des étudiants libres en lutte, des Grecs libres en lutte.
C'est contre le uberianisme. Tout ça contre le capitalisme. On dit à
grand.
Ici, il n'y a pas seulement des étudiants, il y a des élèves, il y a des ouvriers, il y a tous.
Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων αμερίων.
Alors, vous appelez Aliki?
Bien sûr, je m'appelle Aliki. Mon nom, il est, comme la plupart de nos Grecs, un petit train. Papa de Michel Aki. Je suis de la génération de juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai vécu l'histoire de la Grèce, disons, depuis cette époque. Et pour que vos auditeurs puissent comprendre, je pouvais être la grand-mère d'Alexandros Grigoropoulos, qui a été assassiné froidement à Athènes, et il nous a ébranlés tous.
Elle pourrait être la grand-mère, Aliki. Aliki est une intellectuelle, une chercheuse, et une femme engagée, elle est membre du conseil scientifique de l'Institut Nikos Poulantzas, et elle est responsable de la politique extérieure de la coalition Synopsismos, qui est le parti de gauche, coalition gauche de gauche. Et elle a vécu toute sa vie, de façon intense, les grands moments politiques de son pays. Et c'est à travers son regard qu'on va regarder la situation actuelle et puis le passé un peu de cette Grèce qui est en train peut-être de vivre un prélude à ce qui peut nous arriver. Je vais pas vous demander un cours d'histoire, mais quelques grands épisodes qui pourraient éclairer la situation présente qui n'est pas si facile que ça à comprendre.
Je vous comprends, c'est une question difficile, mais je vais essayer de répondre avec mon français un peu bancal.
Ça ira.
La particularité de la Grèce par rapport au reste de l'Europe, c'est que juste après la libération de l'occupation nazie, il y a eu une guerre civile. Ça a marqué le pays dans son ensemble.
Et il y a eu un grand massacre de communistes dans ces années-là, après la guerre.
Si, évidemment, il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont été exécutés, le peuple ne sort pas gagnant. d'une guerre civile, reste de part et d'autre avec de grandes blessures. Évidemment, les plus profondes sont celles des gens perdants. Il y a eu la moitié de la Grèce qui s'est retrouvée dans la partie obscure de la Lune, complètement marginalisée. Je vous donne un exemple. Mon père, il avait 24 ans de tôle. Ma mère, 14 ans. Moi, le sort l'a fait, c'était pas mon choix. Je suis un parmi les quelques enfants qui ont fait les camps de concentration de Macronissos à cette lointaine période. Donc, cette histoire vient de loin.
Et pourquoi ses parents ont fait autant d'années?
Parce que mes parents, c'était des communistes. Et ils ont fait la prison, y compris avant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de la dictature de Metaxas. Et ça a continué pour mon père jusqu'aux années 62 et pour ma mère jusqu'aux années 54. Moi, à l'époque, j'avais 9 ans, quand ma mère elle est sortie du camp de concentration.
Vous me dites que vous êtes allé dans un camp de concentration?
C'est une île qui se trouve très proche d'Athènes, de l'Avrio, une île longue, étroite, déserte, où ils ont été massacrés. Cette île nous a marqué, je crois, les enfants. Vous savez, les mémoires, pour un enfant, s'inscrivent toujours dans les disques durs. Hein. C'est difficile d'en parler. Mais je pense que la chose à tirer, c'est que il faut pas avoir de la haine. Parce que ça fait un cercle vicieux qui tire l'histoire vers le bas. Il faut avoir la lumière d'une mémoire historique apte et capable de faire des projections d'avenir nécessaires pour la nouvelle génération, nécessaire pour l'humanité tout entière.
Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux.
5 colonnes à la une, 1967.
Fionn diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée, tout est interdit sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. Monsieur Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Le Parlement, le Palais Royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée, même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde. Une semaine après le coup d'État, le nouveau régime fait sa première apparition publique devant les caméras de l'actualité mondiale. et ceci en la personne du colonel Papadopoulos. Le colonel Papadopoulos est ministre de l'Information. Sur un ton qui trahit le vieux réflexe de l'inspection, le colonel commence par s'opposer à ce qu'on le photographie, car il n'aime pas ça. Suit une déclaration énergique pour prévenir toute question vaine et toute perte de temps. Nous avons mis la démocratie grecque sous narcose, dit-il, pour pouvoir l'opérer. La narcose durera le temps de l'opération et l'opération le temps qu'il faudra.
C'est intéressant, évidemment, de, même si c'est douloureux de remuer tout ça, mais évidemment que ce que vous dites là éclaire les réactions, éclaire la façon dont les, aussi bien les jeunes, les très jeunes, mais les moins jeunes regardent ces flics, essayent de leur parler. Il y a une histoire à régler. On sent qu'il y a une vieille histoire à régler dont ces jeunes n'ont pas forcément conscience.
Oui, mais je pense que cet aspect, il est secondaire, il est au deuxième plan par rapport à leurs aspirations actuelles. Vous voyez, la crise en Grèce, et d'ailleurs je pense dans le monde entier, c'est une crise économique, politique, sociale, écologique, donc j'ose dire civilisationnelle. Et quand les aspects civilisationnels se mettent en cause, quand les certitudes, le point de repère essentiel pour un jeune, commence à se volatiliser, ça vient à la fois une incertitude profonde et une rage liée à cette incertitude. Ces jeunes, du matin au soir, sont obligés de travailler très dur parce qu'il y a un concours pour entrer à l'université. Parce que comme l'enseignement grec reste à un niveau très bas, parce qu'il n'y a pas d'investissement, parce qu'il n'est pas aidé, donc les jeunes vont l'après-midi à des cours spéciaux privés. Donc du matin au soir, sont à l'école. La nuit, jusqu'à très tard, ils étudient pour pouvoir assurer une place dans la connaissance.
Ils ne demandent rien, nous voulons tout. Ce que veulent les jeunes, et notamment les étudiants lycéens aussi, qui occupent leurs établissements scolaires et les universités, c'est un autre enseignement. On retrouve dans la rue, dans la manif, ces lycéens qui nous donnent ces précisions.
Ξέρουμε ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν ξέρουν καν τη λέξη φροντιστήριο. Δεν υπάρχει.
On sait bien que dans des autres pays européens, ils savent même pas ce que ça veut dire φροντιστήριο. Ça veut dire une école privée après l'école de l'État.
Συμπληρωματική μάθηση, γιατί σχολείο δεν μαθαίνουμε τίποτα.
Ce sont des leçons supplémentaires parce qu'à l'école c'est tout simplement insuffisant.
Οπότε αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε.
Nous sommes donc obligés de payer ces cours supplémentaires.
Ça coûte combien,
€100.
500 euros.
Πιο πολύ. Εγώ προσωπικά είμαι τρίτη ηλικίου, σε 5 μήνες τελειώνω το σχολείο, πληρώνω 800 ευρώ σε ένα φροντιστήριο για το μέλλον μου.
Moi par exemple, je suis en terminale et je paye actuellement 850 euros par mois pour avoir une formation qui est digne de ce nom.
Asir Ismaelinika, Yar Harims. Le grec accéléré pour débutants. Mathima Proto. Leçon 1. Η κοινωνική εξέγερση. L'insurrection sociale. Λεξιλόγιο. Vocabulaire. Ένας μπάτσος. Un flic. Πληθυντικός αριθμός. Pluriel. Η μπάτση. Le flic. Μπάτση. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Μπάτση. Ένα γουρούνι. Un cochon. Πληθυντικός αριθμός. Pluriel. Τα γουρούνια. Les cochons. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Γουρούνια. Répétez après moi. Γουρούνια. Ένας δολοφόνος. Un assassin. Πληθυντικός αριθμός. Pluriel. Οι δολοφόνοι. Les assassins. Répétez après moi. Μπάτσι. Γουρούνια. Δολοφόνοι. Μπάτσι. Γουρούνια. Δολοφόνοι.
Ça c'est le sang éternel. Flic, gros porc, assassin.
C'était Bâti, Gourogna, Dolophonie, une nouvelle version des reportages de Daniel Mermet et Guy Vanctil à Athènes en décembre 2008. Merci à Yanis Felekis, à Aliki Papadomichelaki, ainsi qu'à Thomas Jacobi pour la traduction. Un rassemblement contre la dictature des marchés et en soutien au peuple grec est prévu à Paris aujourd'hui. Rendez-vous à 19h devant la Fontaine des Innocents. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique « Là-bas si j'y suis » et sur le site la-bas.org. À la technique, aujourd'hui, Éric Morin et Fabien Laléouze, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 37 37.
France Inter, le Théâtre National de Chaillot et le Festival d'automne à Paris présentent un cycle de trois spectacles consacrés au chorégraphe William Forsythe. Cette invitation exceptionnelle à Chaillot sera l'occasion de retrouver le Ballet Royal de Flandre et la Forsythe Company dans deux œuvres emblématiques du chorégraphe, In Poissing the Tsar et Artifact, ainsi que sa nouvelle création, Cider. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, il est 16h, les informations avec Laetitia Gaillet.
Les désaccords sur l'accord sont sur le point d'être aplanis entre Verts et PS. Les deux parties ont annoncé cet après-midi avoir trouvé un terrain d'entente sur le nucléaire et surtout sur le point qui fâche, le MOX. Un passage sur la reconversion du combustible avait été retiré in extremis par le PS. Finalement, il a été réintroduit, mais avec des précisions. Le PS et Europe Écologie Les Verts souhaitent renforcer les garanties de sûreté du parc nucléaire et ils s'engagent à une reconversion à emploi constant de la filière de retraitement de fabrication du MOX. Le MOX sera maintenu à La Hague et Marcoule. Il reste encore au Conseil fédéral des Verts réussir à valider ou non le texte samedi, il n'empêche la cacophonie de ces derniers jours risque de laisser des traces. D'après Noël Mamère, cet après-midi, Eva Joly s'interrogerait sur la pertinence de sa candidature à l'élection présidentielle. L'Espagne ne risque absolument pas d'avoir besoin d'un plan de sauvetage. Elena Salgado, la ministre de l'économie espagnole, en est sûre aujourd'hui, et ce malgré les taux records concédés encore dans la journée pour emprunter sur les marchés. D'ailleurs, Elena Salgado dénonce les attaques contre la dette souveraine espagnole. Des milliers de personnes manifestent actuellement à Athènes contre les mesures d'austérité. Si l'on en croit le ministère des Finances grec, les recettes fiscales ont baissé de 4,1% depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Cette baisse atteste de l'ampleur de la récession, mais elle est due aussi, selon les autorités grecques, à la fraude fiscale. Elle est également la résultante des grèves des agents du fisc et des fonctionnaires des finances contre les nouvelles coupes dans les salaires. En France, Claude Guéant veut sanctionner les étrangers qui boudent les cours d'intégration. Le ministre de l'Intérieur l'a dit aujourd'hui lors d'un déplacement à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Les sanctions peuvent porter sur le renouvellement du droit de séjour et sur la taxe à payer. Selon Claude Guéant, 5 500 personnes sur 24 000 seraient concernées. L'UMP a plaidé aujourd'hui pour le renforcement du travail en prison. Pour le parti de la majorité, cela permettra de faciliter la réinsertion, mais aussi de rembourser les préjudices financiers aux victimes. C'était un artisan de la télévision et un amoureux des livres. Pierre Dumayet est mort aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Pierre Dumayet, souvenez-vous, c'était notamment 5 colonnes à la une, Céline Aslo.
5 colonnes à la une.
Son générique est resté mythique. 5 colonnes à la une est créé en 1959 au lendemain de l'arrivée du général de Gaulle à l'Élysée. L'émission marque la naissance du grand reportage télévisé. Et elle lance la légende des 3 P, ses 3 producteurs, Pierre Lazareff, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet. Pierre Dumayet qui a accompagné les balbutiements du petit écran. En 1949, il travaille à la conception du premier JT. L'année suivante, il écrit les dialogues du tout premier feuilleton de la télévision, l'agence Nostradamus. Il produit ensuite de grands succès, En votre âme et conscience, et surtout Lecture pour tous, qui reste à l'écran de 1953 à 1968. Un record de longévité.
La semaine dernière, Salvador Dali vous a parlé de son Don Quichotte, le livre le plus cher du monde.
La littérature est d'ailleurs l'autre pilier de la carrière de Pierre Dumayet. Lui qui a publié plusieurs romans a aussi interviewé les plus grands écrivains du XXe siècle, de Borges à Ionesco. Céline Aslo, 16h03 sur Inter.
Tous les dimanches à partir de midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, une quête d'absolu, mais qui démontre toujours que l'absolu est relatif. Une recherche d'élégance, un espoir de pureté. Dans 3D dimanche, les mathématiques en exposition à la Fondation Cartier.
Pour assister à l'émission, rendez-vous dimanche à partir de 11h30 devant la Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail à Paris. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Mais pour l'instant sur France Inter, vous avez rendez-vous avec Frédéric L'Odéon pour Carrefour de l'Odéon. C'est à vous.
Et bonjour Laetitia.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci pour votre fidélité qui nous offre de très beaux sondages pour ce début de saison. Continuons non pas le combat mais au contraire le partage de la musique. Alors la musique, je l'ai dit, on la partage en ce moment à l'occasion de cette opération, de cette fête plutôt, les orchestres qui se mettent en valeur, orchestres en fête. Et par exemple, parmi les concerts proposés dans ce cadre-là, il y a au Théâtre des Champs-Élysées, mardi à 20h, l'orchestre qui va s'appeler bientôt l'Orchestre de Chambre de Paris, mais encore pour l'instant, pour quelques mois, il s'appelle Ensemble Orchestral de Paris, et il y aura Joseph Swensen, son chef, Roger Muraro, fameux pianiste, sacré personnage aussi, et on va pouvoir entendre du Copland, du Thierry Esquèche, qui est un compositeur d'aujourd'hui absolument exceptionnel, et du Maurice Ravel. Voici tiré du dernier disque de Roger Muraro, le premier mouvement, une partie en tout cas du concerto en sol de Maurice Ravel, donc titré Allegramente. Bon, on peut le dire comme ça, moitié en français. Enfin bon, il y a des transcriptions tout à fait différentes selon les époques. Par exemple, dans l'émission, on va peut-être entendre, si on arrive jusque-là, un rondo gratioso avec un T au lieu de gratioso du Chevalier de Saint-Georges. Peu importe, on sait de quoi il s'agit, nous, bien sûr.
Comme un éclat de rire sardonique, une gamme descendante bien musclée à la conclusion de ce premier mouvement Allegramente du concerto en sol de Maurice Ravel par Roger Muraro avec l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Woon Chung. Donc Roger Muraro avec l'ensemble orchestral de Paris mardi au Théâtre des Champs-Élysées à 20h avec notamment ce concerto de Maurice Ravel et d'autres belles œuvres, bon, pas à découvrir, mais enfin, peut-être qu'on ne connaît pas encore le chant baroque de Thierry Esquèche, ça aura certainement le coup, parce que c'est un compositeur génial. Et puisque je viens de citer Myung-Woon Chung, malheureusement, il est souffrant, donc il annule ses concerts, et on va pouvoir entendre un orchestre toujours excellent, bien sûr, l'orchestre philharmonique de Radio France, qu'on vient de goûter à l'instant, mais là, pour ce qui est des concerts à Paris, c'est-à-dire demain, le 18 novembre, et puis le 25 à Pleyel, deux concerts parisiens, donc il y aura un remplaçant prestigieux, Mico Franc, qui connaît bien l'orchestre, il est déjà venu plusieurs fois, et donc au programme Brahms, concerto pour piano avec Lars Vogt,